De Radio Classique avec David Abiker.
Et nos esprits libres du vendredi ont rejoint ce studio. Jean-Marie Colombani, fondateur du site Slate, ancien directeur du Monde. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour David.
Et Cécile Cornudet, que les lecteurs des Échos connaissent bien puisqu'elle signe le billet politique chaque jour. Cécile, bienvenue.
Bonjour.
On va commencer avec une vidéo publiée hier par Emmanuel Macron sur Instagram. Je suis tombé dessus hier, en fin de journée, en pleine crise politique. Le chef de l'État nous vendait la voiture électrique en leasing à 100 euros par mois. Alors tout ça, c'est au lendemain, évidemment, de la COP28. Emmanuel Macron n'a-t-il pas déjà, tout de même, engendré cette crise politique liée à l'échec, peut-être provisoire, du projet de loi immigration, Cécile?
Oui, parce que c'est un sujet très grand public, un sujet qui est attendu. Il l'a avancé parce qu'en réalité, il devait en faire la promotion en fin de semaine prochaine, juste avant les fêtes de Noël. Là, on est en pleine tractation à Matignon, LR, la majorité qui explose. Enfin, c'est un spectacle affligeant pour les Français. Et lui, il veut montrer qu'il est au chevet d'eux dans leurs préoccupations quotidiennes avec cette voiture à 100 euros. Dans le programme de la présidentielle, c'est la seule mesure, à part les retraites, que les gens avaient retenue, donc de vraiment concrète. C'est les sondages qui disent ça, donc il espère beaucoup capitaliser là-dessus. Mais ce faisant, en parlant d'autre chose, en donnant le sentiment que cette histoire de loi immigration, c'est pas son problème, eh bien, il participe finalement d'une mécanique de l'échec qui est en train de se mettre en œuvre, parce que en fait, il n'y a pas tellement de mots d'ordre, il n'y a pas tellement de drive, comme on dit, pour savoir où est-ce qu'il faut aller dans cette négociation. C'est
vous
ça le paradoxe. Il l'enjobe et en même temps, je pense qu'il le fragilise.
Vous pensez, Cécile, qu'il aurait dû s'exprimer publiquement pour essayer de cadrer les choses, appeler une issue de ses vœux?
En tout cas, c'est étonnant la façon dont ça s'est fait depuis lundi, parce que il a laissé fuiter des phrases très très dures contre LR en Conseil des ministres. Vous savez comment ça se passe, il parle en Conseil des ministres, il dit les phrases, les conseillers appellent après les journalistes en disant regardez, il a dit ça, et là il a assassiné LR au moment où on a besoin de LR pour conclure cet accord. Donc c'est un jeu un peu particulier, un peu comme si finalement aujourd'hui il travaillait surtout à essayer de voir qui emporterait la responsabilité, essayer de se défausser sur LR et finalement actant le fait que ça ne peut pas marcher.
Jean-Marie, faute d'organiser les événements, feindre de les avoir prévus, c'est un peu ça d'après
c'est
vous?
C'est une vieille règle de la politique. Moi, je serais un peu plus indulgent quand même, parce que qu'aurait-il dû faire? Ne rien faire à ce moment-là, rester chez lui, enfermé dans le palais de l'Élysée. Non, il peut quand même continuer à sortir.
Il y a le Conseil européen, il y a la COP, il y en a des sujets.
Oui, mais il peut quand même aussi se saisir de sujets. En effet, la voiture, c'est un sujet grand public et surtout qui touche les catégories les plus modestes. Donc, on peut pas le lui reprocher non plus. Cela dit, je trouve qu'on est, alors pour le coup, beaucoup trop indulgent avec la séquence qui a été enclenchée par le refus de discuter, parce que refuser de discuter d'un texte, c'est quand même nier la fonction parlementaire pour laquelle vous avez été élu.
Là, vous faites le procès de l'opposition.
Des oppositions qui se sont liguées pour ne pas discuter, alors qu'il était prévu 15 jours de discussion. Donc, et je voudrais rappeler que on cite souvent à juste titre le vote des Français qui a envoyé à l'Assemblée nationale une majorité relative. C'est un message pour le président que peut-être le président n'a pas suffisamment, pour le coup, ni compris, ni médité, ni tiré les conclusions qu'il fallait. C'est-à-dire de s'occuper en permanence de construire du consensus. Donc ça, c'est le message était clair. Mais le message s'adressait aussi aux oppositions. Les Français n'ont pas voté pour cette espèce de muraille qui a été édifiée. Les Français ont voté pour obliger au compromis, obliger au consensus, c'est-à-dire revenir à l'essence même de la démocratie parlementaire, qui est de créer du compromis, de créer du consensus. Or ça, l'opposition l'a refusé.
Et vous croyez que c'était l'intention des Français, Jean-Marie Colombani?
Ah, je pense
Colombani,
oui.
Quand 12 ans, d'une façon presque sadique, le non-équilibre...
Parce que ça dit que ça s'était déjà produit déjà dans le passé, avec un vote, rappelez-vous la phrase de François Mitterrand, il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne. Les Français avaient ça en tête et ne voulaient pas redonner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc obliger Emmanuel Macron à discuter. Mais ça voulait dire aussi que les autres considèrent, acceptent l'idée qu'il fallait discuter.
Mais Mitterrand avait fait l'ouverture, et il avait aussi, si ma mémoire est bonne, gouverné par ordonnance. Mais je suis...
Tous les présidents successifs ont
On le lui avait reproché.
Des ordonnances. Et d'ailleurs, Mitterrand avait refusé les ordonnances proposées par Jacques Chirac. Mais ça, c'est en effet une autre histoire. Mais voilà, je pense que ceux qui ont aujourd'hui... Il y a une sorte de trahison de la démocratie parlementaire. Alors maintenant, on est de toute façon dans les suites et les suites politiques de tout cela. Ça peut aller à peu de choses. C'est pour cela que Emmanuel Macron a dû hésiter à intervenir, parce que s'il intervenait, il dramatisait. Et s'il dramatisait, il donnait la main à tous ceux qui se sont levés dans l'hémicycle en applaudissant comme un but de Mbappé, à savoir les élus du RN et les élus de la France Insoumise, qui sont les deux bancs qui se sont levés pour applaudir. Donc il aurait aidé ceux-là parce qu'il aurait dramatisé. Là, il a choisi de ne pas dramatiser. Maintenant, ça se terminera peut-être très mal, cette histoire, parce que on ne voit pas, en effet, comme l'expliquait Cécile tout à l'heure, on ne voit pas quelle peut être l'issue dans ce genre de discussion.
On parle beaucoup de la commission mixte paritaire et du rendez-vous entre Madame Borne et des représentants de LR dimanche soir. Cécile Cornudet, vous connaissez ces affaires-là par cœur, vous suivez ça depuis des années. Quand on annonce ces rendez-vous, cette commission mixte paritaire, et que c'est répété par les médias, ça devient des concepts assez abstraits. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ?
Concrètement, pour poursuivre ce que vient de dire Jean-Marie, c'est étonnant. On devait avoir un débat au Parlement. Le Parlement, c'est transparent, en fait. On voit ce qu'on peut regarder, ce qui s'y passe. Et là, tout se passe en prévision de cette commission mixte paritaire dans le bureau d'Elisabeth Borne, en vrai. On a des tractations qu'on connaît pas, avec des rendez-vous qui se succèdent. Elle, avec un casque bleu, hein, qui essaye de réinventer...
Mais
une...
qui va aller... Pardon, je vous coupe, mais qui va aller la voir dimanche ? À quelle heure ?
Là, elle est en train de ça va être Bruno Retailleau, c'est les têtes.
Éric Ciotti,
c'est eux qu'elle voit.
Donc elle les reçoit dans son bureau, voilà, elle va être très aimable avec eux, j'imagine.
Enfin, je crois qu'ils sont vraiment sur les sujets. Ouais. Est-ce que ça, vous êtes prêts à accepter ? Jusqu'où on va ? C'est vraiment sur une négociation. Il faut essayer de trouver un compromis entre le texte qui est très à droite, qui est sorti du Sénat, et le texte beaucoup plus recentré, qui était en commission à l'Assemblée nationale. Ce travail de compromis, il n'a pas été fait par Gérald Darmanin. Lui, il voulait un accord à chaque fois. Donc, en fait, il y a un grand écart entre les deux textes. Et donc, elle, en trois jours, elle doit trouver ce compromis-là avec deux difficultés. Un, est-ce que LR peut aller sur un accord ? Est-ce qu'elle peut trouver un accord ? Et après, ça serait la CMP. Et après, il faut que ce soit ratifié par l'Assemblée. Donc, il faut que la majorité soit d'accord. Donc, là, c'est ça qui est très, très
Attendez,
difficile.
Attendez, c'est du billard à oui, trois bandes successives. Oui, c'est mille bandes parce que s'ils se mettent d'accord officieusement dimanche soir, encore faut-il qu'ils ménagent la commission mixte paritaire.
Non, mais l'accord de dimanche soir, ça prépare la CMP.
Donc, la commission mixte paritaire ne peut être que d'accord avec ce qui se sera dit la veille.
Dimanche soir, voilà.
Et ensuite, l'Assemblée nationale peut désavouer.
Voilà, c'est ça le problème. Donc là, elle est en discussion avec LR. C'est avec LR qu'il faut trouver un accord dans la CMP. Mais derrière, il y a la majorité. Et je pense que pour Emmanuel Macron, c'est pire que tout un éclatement de sa majorité, qui est très sensible sur ce sujet de l'immigration. C'est pas un sujet comme les retraites, c'est quelque chose d'épidermique, l'immigration. Et avoir une explosion de la majorité, ce serait pire que tout. Donc je pense que, vous voyez, je suis pas très optimiste. Mais...
Ça veut dire qu'on peut pas dire à quoi vont ressembler les sujets politiques du mois de janvier et d'après Noël, Jean-Marie Colombani.
Ça peut ressembler au développement d'une crise politique, et ça peut ressembler au contraire à quelque chose de plus banal qui consiste pour le président de la République à développer un agenda qui est.
Moi, je crois que c'est ça. Il veut vite tourner la page pour passer à autre chose.
Et LR peut l'empêcher de tourner cette page, vraiment.
S'il y a un échec, il dira, vous voyez, c'était la faute de LR.
J'aimerais qu'on termine avec une note positive, pleine de symboles. On parle beaucoup en ce moment des Jeux Olympiques. Yannick Noah devient capitaine de l'équipe de France de tennis en fauteuil dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment vous interprétez ça ? Il y a quelque chose de symbolique ? C'est une bonne nouvelle ?
C'est une bonne nouvelle et il n'y en a pas beaucoup dans les JO en ce moment puisque ça, on accumule les polémiques. Il y en a eu trois cette semaine des bonnes nouvelles. Il y a eu lui, il y a eu Sophie Binet, la patronne de la CGT qui dit « on sanctuarise les JO, il n'y aura pas de conflits sociaux de notre part, on ne veut pas gâcher la fête des Français ». Et il y a eu la pluie de médailles que la France Natation a eue au championnat d'Europe de natation. Donc il y a eu trois bonnes nouvelles et ça fait du bien. Et chez Yannick Noah, ce qui est beau, c'est l'enthousiasme, les mots qu'il met sur ce défi d'essayer de comprendre ce sport qui est pas tout à fait le même, le tennis en chaise roulante qui est pas tout à fait le même que celui qu'il a connu. Donc il est presque humble dans sa façon de.
On parle beaucoup d'inclusion, mettre ce grand champion à l'entraînement d'équipes qui sont toujours au second plan par rapport au tennis mondial.
Il y aura peut-être deux JO, les JO.
Il y a quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que Jean-Marie.
Mais c'est une façon d'attirer l'œil justement sur cette compétition qui prend de plus en plus de place et de plus en plus d'importance. Au chapitre des bonnes nouvelles, Cécile en a oublié une, la qualification du Paris Saint-Germain pour le tour suivant.
De la Champions League. Mais ils sont
pas au JO
aussi?
Non, ils sont pas
au JO. Ça compte pour Jean-Marie.
Absolument. Mais si vous voulez, Yannick Noah, en plus, c'est un symbole extraordinaire. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, dans le Hit Parade qui était publié chaque année, je crois, par le journal du dimanche, sur les personnalités les plus respectées ou les plus aimées par les Français, Yannick Noah était souvent en tête. Et on se disait, regardez qui y a en tête, il y avait souvent des profils de cette nature. Il y avait Simone Veil, il y avait Yannick Noah.
Mais
Sophie
Marceau, maintenant.
Oui, absolument. Donc, c'est un symbole très important et je pense que c'est un choix vraiment très pertinent. En plus, quand on l'écoute, on est nécessairement séduit par une certaine forme de douceur dont le pays a grand besoin.
Ah, moi, j'aime bien, c'est un sorcier, Noah. C'est un sorcier, il est d'une coolitude et il vous met en confiance. Rien que le voir à la télévision ou écouter sa voix, il est formidable. Alors on va se quitter avec la marche militaire numéro 1 de Schubert. Elle pourrait accompagner l'entraînement de l'équipe de France de tennis paralympique. C'est surtout la musique qui ouvrira ce soir le concert de Noël de Radio Classique au Théâtre des Champs-Élysées. J'aurai l'immense honneur, l'immense bonheur de le présenter. C'est à 20h ce soir donc, à 15h demain et à 20h demain aussi. Ce sera diffusé dimanche soir sur Radio Classique à 20h. Cécile, Jean-Marie, merci à vous. Je vous souhaite un bon week-end. Jean-Marie, rendez-vous demain matin pour commentaire 8h30. Et Cécile, on vous lit dès lundi dans Les Échos. Commentaire 8h30, c'est évidemment sur Radio Classique avec votre complice Jean-Claude Casanova. Merci à tous les deux.
Merci David.